Éco 24, la rubrique économique locale. Happy
Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Radio et plus précisément dans la rubrique Éco 24. Éco 24, c'est le rendez-vous où on met en lumière celles et ceux qui font bouger l'économie locale. Et aujourd'hui, on parle d'un moteur culturel qui fait vibrer Bergerac, le Roxane. Salle de concert, accompagnement des artistes, action culturelle, bref, un lieu où la musique ne fait pas juste boum boum, elle fait aussi du lien. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emma et Salomé qui font partie de l'équipe qui pilote le Roxane au quotidien. Bonjour à vous deux et trois, il y a une tierce personne.
Salut. Oui, c'est Théa qui est à ma droite.
C'est vrai que j'avais pas le nom dans... Théa. Voilà, Théa est avec nous en plus. Ouais. Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous.
Merci.
Pour commencer, simple, le Roxane, c'est quoi exactement et quelle est sa mission aujourd'hui à Bergerac?
Alors, le Roxane, c'est donc une salle de musique actuelle. Salle de musique actuelle, je précise, c'est on va dire un peu l'intitulé exact. Musique actuelle, pourquoi ? Parce que par exemple, nous on fait pas de la musique classique, on n'accueille pas spécialement non plus par exemple des projets pluridisciplinaires ou circassiens par exemple. Notre mission principale c'est les musiques actuelles. Après bon, il y a parfois aussi un débat de qu'est-ce que sont les musiques actuelles, on peut chercher plein de définitions, mais si je peux faire très simple, c'est on va dire on accueille des projets chansons, pop, rock, metal, reggae. Voilà, en gros, c'est un peu les esthétiques principales. Et quel est notre rôle ? Alors, si je refais un tout petit historique, je n'étais pas là à l'époque, mais le Roxane a vu le jour grâce à une association qui s'appelle l'association Overlook, qui est à l'origine de ce projet-là. L'asso Overlook, aujourd'hui, elle a plus de 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et le Roxane est venu bien après, en fait. Le Roxane, c'est plutôt l'entité, le lieu, qui lui a vu le jour en 2003, grâce au travail et au dialogue qui s'est créé entre l'association Overlook, la ville, puis la CAB, qui nous met donc à disposition pour l'association Overlook, ce lieu qui donc s'est intitulé le Roxane par la suite. Et après, il y a une multitude d'activités et on a plein de missions au Roxane. La première, qui est la plus évidente aux yeux du grand public, qui est ce qu'on appelle, nous, la diffusion de concerts, puisqu'on a une salle de concert au Roxane. Après, quelque chose d'un petit peu moins visible, mais tout aussi important, et je pense qu'on y travaille en plus, de plus en plus depuis que Salomé nous a rejoint en septembre, c'est ce qu'on appelle l'action culturelle. Dans l'action culturelle, il y a aussi de la médiation. C'est toutes les missions qui nous permettent d'accueillir des publics ou de créer des projets avec des publics qui se sentent éloignés de la musique en général, qui se sentent pas représentés ou peu représentés par le lieu, justement. Et on travaille avec une toute typologie de public. On travaille avec des collèges, des lycées. On travaille avec des prisons, on travaille avec des EHPAD, on travaille avec des MECS, des foyers, voilà, plein d'acteurs de ce type. Et notamment, on va dire un peu plus activement depuis la rentrée. En tout cas, on cherche aussi des nouveaux acteurs, puisque Salomé s'occupe de l'action culturelle ardument.
On reviendra dessus juste après, je voudrais qu'on revienne sur la salle de concert.
Ouais.
Je pense que nos auditeurs ont souvent en tête, c'est juste on ouvre des portes, on branche des enceintes, et c'est parti. Mais c'est quoi la réalité du quotidien en coulisses quand on gère un lieu comme le vôtre ?
J'adorerais que ce soit que ça.
Ouais, j'imagine. Hein.
Et c'est souvent ce qu'on voit. Bah écoute, nous, ça nous a donné justement aussi l'occasion, j'en profite pour le dire, d'ouvrir les portes et de proposer notamment aux jeunes aussi de venir faire des visites, de visiter un lieu comme le nôtre et justement de découvrir un peu les coulisses, de découvrir un peu le derrière du décor. L'envers du décor, c'est comme ça qu'on dit. Parce que
ça fait partie des actions culturelles, pardon.
Oui, c'est une forme d'action culturelle, ouais. On peut dire ça. Donc ouais, notre quotidien. Notre quotidien, c'est quand même beaucoup de bureaux, hein, malgré tout. On a des bureaux, on est une petite équipe, on est 5, donc on est plutôt au bureau. Et puis après, on a Damien, donc, qui est notre régisseur technique, qui s'occupe donc plutôt de l'aspect... gestion de la salle, justement, donc lui il est plutôt dans la salle au quotidien, et Alex qui est le coordinateur de la Rock School et accueille des publics, qui est plutôt dans le hall, qui a lui son petit bureau mais dans le hall en bas. Donc c'est du bureau et c'est de l'anticipation, c'est-à-dire que nous on travaille en général entre, on a toujours 3 à 6 mois d'avance sur ce qui va se faire dans le lieu. Et donc en fait, quand on est en train de travailler, on travaille pas forcément l'instant T, on travaille l'après. Donc là, tu vois, on est en janvier et moi, je suis déjà en train de travailler sur plutôt septembre-décembre 2026. Voire on parle déjà de projets de 2027. Donc il y a un peu cette schizophrénie à travailler sur des projets qui sont parfois dans 6 mois, 1 an. Centre culturel, c'est encore plus exagéré dans le temps. Ils travaillent parfois avec un an et demi d'avance. Donc il y a ça, il y a anticiper, travailler l'après. Donc on passe beaucoup de temps sur nos ordinateurs, devant nos mails, passer des coups de téléphone pour parler des projets d'après. Et en même temps, gérer le quotidien, le là tout de suite maintenant. Donc ben, on a un rythme à peu près d'un événement par semaine. Quand je dis un événement par semaine, ça peut être un concert, ça peut être un projet d'afterwork, donc ça se passe dans le hall, donc c'est un format un peu plus léger, ça peut être un projet d'action culturelle, ça peut être, on a un événement à l'extérieur par exemple avec un partenaire, mais grosso merdo on a à peu près un événement en tout cas par semaine à gérer. Donc là on est plutôt sur un début de semaine où on fait un point d'équipe sur ok l'événement il a souvent, en moyenne on a des événements plutôt le vendredi et le samedi. En tout cas les événements ont toujours lieu fin de semaine, on va dire entre jeudi et samedi. Donc on fait un point souvent le mardi en disant ok l'événement il a lieu vendredi, on en est où. Donc là on fait plutôt ce qu'on appelle un point prod, donc on parle de production. Est-ce que on est bien d'accord sur le planning, est-ce qu'on est bien d'accord sur les horaires, est-ce que le partenaire de l'événement, l'artiste, l'asso qu'on reçoit bien les infos, est-ce qu'on est bien d'accord sur comment ça va se passer, comment se passe le déroulé, est-ce qu'on a bien réparti les missions entre chacun et chacune. Puisqu'on est une petite équipe, on tourne pas mal aussi justement les soirs d'événements sur les missions, typiquement un concert. Alors on va avoir évidemment des bénévoles aussi, mais qui s'occupe des bénévoles, qui coordonne les bénévoles, qui va s'occuper de la billetterie, qui va s'occuper du bar, qui va s'occuper de l'accueil artiste. Et ça on tourne assez souvent pour que tout le monde puisse toucher un peu à ses missions de production pendant un concert. Et donc justement quand on fait le point en début de semaine, on a besoin de se répartir les rôles et que tout le monde soit bien au fait de ce qu'il a à faire. En fonction de la taille de l'événement, et aussi la charge de travail est différente. Par exemple si c'est un soir de concert où on sait qu'on a beaucoup de monde, et au bar il va y avoir plus de bénévoles, on va faire des commandes de bière qui sont différentes, on a des horaires potentiellement qui sont plus longues, donc ça va pas être la même charge de travail là, le même rythme et la même façon de faire que si c'est un after work et qu'on accueille par exemple une autre asso et que elle-même a d'autres bénévoles qui peuvent l'aider par exemple. Ou par exemple si on fait un projet de médiation et qu'on accueille des enfants, on sait qu'on ne va pas servir de bière mais on va servir des grenadines. Bref, c'est des petits...
Des Monaco.
Ou des Monaco.
Pardon, ouais. L'alcool est dangereux pour la santé, je suis obligée de le dire.
Enfin voilà, ça très concrètement, donc plutôt début de semaine, point sur la répartition des rôles et des missions et ce qu'on appelle un peu un point prod par rapport à l'événement qu'on a en fin de semaine. Et en même temps, le reste de la semaine, on anticipe la suite. Moi, je peux parler surtout en mon nom parce que dans la programmation, en tout cas, c'est beaucoup de projections et d'anticipation sur la suite. Mais en même temps, ça peut aussi s'appliquer à son travail.
Oui, c'est à peu près pareil pour toi. Ça ressemble à ça, j'imagine, une semaine, puisque vous êtes tout le temps ensemble.
On est tout le temps ensemble. J'allais rebondir aussi sur le travail des Macs, c'est beaucoup de veille, c'est beaucoup d'attention à ce qui se passe dans le monde de la musique plus loin que Bergerac, c'est vraiment au niveau national, voire international, pour découvrir de nouveaux projets musicaux, de nouveaux tremplins qui nous permettent d'être au courant de ce qui se passe dans les musiques actuelles. Pour ce qui concerne la communication et l'action culturelle, qui sont mes deux casquettes au Roxane, il y a beaucoup de réflexion et de rédaction aussi. Pour l'action culturelle, on fait ce qu'on appelle par exemple des projets pédagogiques, qui sont toute une réflexion d'activité, de temps d'échange, de formation autour d'un événement. Donc ça demande aussi de l'organisation et de la réflexion pour proposer des contenus intéressants au public empêché ou éloigné, ou en tout cas nos publics partenaires avec lesquels on travaille. Et pour ce qui est de la communication, très concrètement aussi, si on va dans le concret, quand un événement a lieu, c'est plusieurs mois à l'avance qu'il faut réfléchir au visuel, au support sur lesquels on va coller ou afficher ces visuels. Là, par exemple, on vient de sortir notre programme trimestriel, qui est un gros travail de communication pour récolter toutes les informations, les biographies, les dates, la mise en page, l'illustration, l'impression. Donc, beaucoup de petites tâches comme ça au quotidien, mais qui demandent du temps et de l'organisation.
Et particulièrement, encore une fois aussi, je répète, mais on est une petite équipe. C'est-à-dire que Salomé, elle fait l'illustration, le graphisme, la mise en page. Elle gère avec l'imprimeur, on réfléchit au délai, on fait de la relecture. En soi, tout ce que je viens de citer, ce sont des métiers à part entière.
Complètement.
Hein. Et dans des grandes entreprises, c'est voilà, on est un peu plus segmenté parce que c'est un métier à part entière de fait. Et nous, on est dans un peu cette dynamique et aussi cette obligation par défaut de pouvoir être un peu performant dans tout ça à la fois.
Mais c'est un plaisir
tout ça.
Ou c'est une obligation?
C'est un énorme plaisir.
Voilà, c'est un plaisir de faire tout ça et d'avoir toutes ces casquettes.
Évidemment, sinon on ferait pas ce métier et on travaillerait pas dans l'associatif. Je dis pas ça pour dire que c'est une contrainte ou quoi que ce soit, c'est juste pour se rendre compte de la charge de travail que c'est. Et de, bah oui, voilà, c'est par exemple ça, c'est des semaines et des semaines de travail. Salomé et moi, on peut passer 3 jours à relire, à faire de la relecture et ne faire que ça. En fait, ça demande vraiment beaucoup de temps, des allers-retours avec l'imprimeur pour se dire, ok, bah en fait les couleurs, ça va pas, on revient en arrière. Non, en fait, on change. Là, on va faire de l'impression fluo. Parfois, c'est voilà 2-3 heures de travail. Enfin, et ça s'accumule et ça demande pas mal de temps et de travail. Tout comme le travail aussi de faire parler de nous, par exemple, être présent aujourd'hui. Bah voilà, c'est un peu d'heures de travail dans une semaine. Aller faire de la diffusion du collage, bah nous aujourd'hui on n'a pas les moyens pour faire appel à une entreprise extérieure, donc bah on le fait nous-mêmes. Donc c'est encore du temps de travail où ça c'est carrément une répartition d'équipe où on va passer pendant 1 à 3 semaines parfois, alors pas la semaine complète, mais 2-3 heures par-ci, à faire du collage pour nos événements. Donc là, typiquement, voilà, c'est dans la communication, c'est une charge de travail du quotidien, quoi. C'est et puis surtout le fait qu'on ait des événements toutes les semaines fait qu'en fait, t'as l'anticipation des mois à l'avance avec des rétro-planning de quand est-ce qu'il faut que ça sorte, comment on communique dessus, à quel rythme, quel est le budget qu'on a là-dessus, et puis ensuite il y a les rappels, on va dire ça comme ça. Typiquement, je sais pas, on communique sur un événement 1 mois avant, puis ensuite on va se dire, bah, on fait un rappel de com dessus 3 semaines avant, puis 2 jours avant, puis le jour J. Donc en fait, il y a le travail en amont, le travail d'organisation, de planning, de rétro-planning, quelques semaines, quelques mois avant. Et puis en fait, des fois, tu fais des rappels aussi quelques jours ou quelques semaines avant. Donc en fait, c'est tout le temps. Puisqu'on a des événements toutes les semaines, finalement, c'est un travail qui ne s'arrête jamais.
C'est obligé de penser au futur tout le temps, en fait.
Ouais, un peu.
J'avais une petite question. Si on devait choisir le meilleur aspect de tout ça, de toutes les casquettes que vous avez, et le pire, j'aimerais bien juste ça. Qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus facile?
Individuellement, tu parles?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bah, moi, je dirais que c'est... Si je parle en mon nom, de fait, c'est assez nouveau pour moi, puisque pour rappeler, moi j'étais chargée de communication et de production quand je suis arrivée à Roxane il y a 2 ans. Mon poste a évolué depuis septembre, et donc maintenant je me retrouve chargée de programmation et un peu de coordination de com avec Salomé. J'ai toujours la production. Donc moi, pour l'instant, je dirais là, à brûle pour point, et instinctivement, je dirais que le meilleur pour l'instant de mon poste, c'est que c'est nouveau. C'est que c'est nouveau pour moi et que j'évolue rapidement dans cette structure, que j'ai beaucoup de responsabilités pour mon âge, et que je pense qu'on a une liberté de faire les choses que j'aurais peut-être pas trouvé ailleurs, dans le sens où encore une fois, on est 5, on est une asso. Aujourd'hui, je m'occupe de la programmation, c'est-à-dire que à 5, on peut discuter de ce qu'on a envie de faire, et si on a envie de le faire, on le fait. Et j'ai pas droit de compte à rendre à qui que ce soit, à part au public. Et c'est quand même à la fois une lourde responsabilité, une lourde tâche, mais en même temps une liberté folle qui est hyper gratifiante, et que je pense me conforte dans l'idée que j'ai envie de continuer à travailler dans l'associatif ou en tout cas dans des petites équipes où justement, comme on disait tout à l'heure, c'est pas trop segmenté par poste, mais que en fait on peut élargir aussi nos compétences à des champs d'action qui ne sont à proprement parler pas forcément dans notre fiche de poste. Mais moi, je prends tout autant de plaisir à travailler sur des partenaires futurs, sur l'action culturelle, par exemple. Tu vois, sur nos festivals de rap, on est en train de collaborer un peu à trois là-dessus. Et c'est jamais figé, c'est-à-dire que c'est une envie, en fait. En allant chercher un partenaire, je trouve que c'est stimulant, j'ai envie d'en chercher un autre. On en discute en équipe, et puis finalement, naturellement, tout d'un coup, il y a un trio qui se crée. Sur un autre projet, Théa par exemple, elle peut être hyper proactive sur quelque chose parce que tout d'un coup ça la motive et elle a envie, donc on lui laisse la liberté de le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment chouette. Après,
ça a commencé par le positif, ça va être compliqué là, du coup il faut finir par le négatif.
Non, mais en vrai, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, c'est que c'est beaucoup de responsabilités pour une petite équipe. Et que c'est lourd à porter, surtout dans des contextes qui sont quand même aujourd'hui pour la culture assez difficiles, qu'on justifie beaucoup de notre rôle, nécessité à exister, et que la culture et la musique, il y a du travail derrière. Des gens qui ont fait des études, des gens qui ont des compétences et pour qui c'est voilà, un travail à temps plein et c'est sérieux.
Donc un manque de reconnaissance ?
Je sais pas si je dirais un manque de reconnaissance, parce que moi je considère qu'on a des on travaille dans l'ombre, donc je suis pas à titre personnel en tout cas besoin de reconnaissance. Je sais ce que je vaux et je sais ce que vaut ce qu'on fait. Pas très français, mais plutôt je dirais plus un manque de crédibilité.
D'accord, mais pas de votre point de vue, du point de vue des autres, genre c'est ce que les autres ont comme vision de vous.
La culture, c'est sérieux et c'est crédible, et on a tendance parfois peut-être à réduire ça à justement un lever de rideau et un spectacle, et c'est joli et c'est facile, et que ça reste du divertissement, alors que je pense qu'on a un rôle qui va bien au-delà du divertissement et que c'est du sérieux.
C'est vrai qu'on est là pour en parler.
Voilà.
Salomé.
Alors moi je vais commencer par le positif aussi, je pense, désolé.
C'est pas grave.
Le positif étant que j'apprends, bah, comme disait Emma, tous les jours, et j'ai l'impression de jamais m'ennuyer. J'ai des missions mais qui passent du coq à l'âne du matin au soir, et je trouve ça super parce que chaque journée ne se ressemble pas. Et pour mon cas personnel, moi j'ai une formation dans la communication dans la musique, c'est vraiment là-dessus que je suis formée, dans ce domaine dans lequel je travaille depuis 4 ans, mais la médiation je n'en avais pas fait concrètement en emploi avant, et donc c'est aussi tout un pan sur lequel je peux m'améliorer tous les jours et découvrir les envers de ça, et j'adore, je m'y plais énormément, donc ça c'est mon point positif. Et pour le point négatif, je pense que ce sera un peu de frustration parfois, de justement d'avoir plein de casquettes, ça fait qu'on n'a peut-être pas le temps parfois de se poser à 100% sur des missions qui pourraient le mériter, ou qu'on aimerait en tout cas développer davantage. Et donc c'est gérer cette frustration de se dire que c'est comme ça, et qu'on peut pas toujours tout faire au mieux, puisqu'on travaille dans l'adaptation tout le temps, forcément en petite équipe, et qu'on fait notre maximum et qu'on le fait bien quand même, donc voilà.
C'est marrant que vous n'ayez pas le même ressenti, pas les mêmes mots surtout au final, parce qu'il y a quand même des idées qui se rejoignent. Vous avez poussé tous les jours pour en arriver là. J'aime bien cette phrase là. Est-ce que vous avez poussé tous les jours pour en arriver là?
Ça veut dire quoi, pousser tous les jours?
Est-ce que vous avez travaillé beaucoup?
Toujours. Moi, j'ai été très scolaire et très sérieuse dans mon parcours, avec toujours l'ambition de vouloir faire mieux. Donc, si là, pour l'instant, si je regarde en arrière, je suis plutôt satisfaite du parcours parcouru, et notamment dans la musique, parce que ça reste un milieu qui peut être féroce, qui est quand même encore et toujours très masculin, et que je le répète à qui veut bien l'entendre, que Roxane, quand même, en 2025, on est une équipe majoritairement féminine à des postes à responsabilité, de direction, de programmation, ce qui est suffisamment rare pour le souligner.
Même 2026, du coup, je me permets.
Oui, pardon, 2026, ouais, je ne suis pas habituée encore, c'est vrai, 2026, pardon. Et c'est important parce que c'est encore trop rare et que... en tout cas, à titre personnel, en tant que femme, oui, on a toujours le sentiment de devoir se battre deux fois plus fort pour en arriver là. Et en même temps, moi, je dois cette ascension et cette confiance à notre ancien directeur Pascal Stirn, qui m'a fait confiance. Donc, je le remercie aussi pour ça.
Juste avant de passer à votre actualité, j'aimerais qu'on continue à philosopher une dernière fois. Est-ce qu'on peut parler de la manière dont vous voyez le public qui vient chez vous ? Pour vous, c'est qui ?
On a une pluralité de publics, c'est trop bien. On a plein de publics. On a du public, je dirais, familial. On a des familles qui viennent, familles, enfants... On a des personnes un peu plus âgées qui vont venir par exemple sur des concerts de jazz ou sur des restitutions justement de projets d'action culturelle. Quand c'est la famille au sens large, on a les grands-parents, les cousins, les petits-enfants. Et ça c'est trop bien aussi, j'adore. On a on a naturellement ou plus naturellement des publics un peu plus jeunes aussi, plutôt collège-lycée qui viennent au festival 24 carats par exemple, festival de rap. Et encore, avec du 6 l'année dernière, on a aussi pas mal de trentenaires, c'était cool. Ce qui est une tranche d'âge, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins présente sur le territoire, donc en plus quand elle est présente à des événements, c'est cool. Nous, on le retrouve beaucoup aussi sur l'école de musique. Tu vois, on a les enfants entre 5 et 16 ans, avec plutôt une majorité entre 5 et 12, quoi. 12, 16, on en a un peu moins. Mais après, 16, 18, très peu. 18, 20, quasiment inexistant. Après, gentiment, voilà, on revient vers les trentenaires, on en a un petit peu. Et après, c'est très vite 40, 50, ouais. Ce qui, pour moi, représente bien les tranches d'âge du territoire. Et c'est aussi celles qui sont présentes sur le festival. Après, en fonction des événements aussi, on a des publics qui viennent aussi de beaucoup plus loin. Donc là, ça peut un peu changer les tranches d'âge ou la démographie. Donc,
Est-ce que vous le prenez en compte quand vous faites votre programmation ?
Évidemment.
Ouais, toujours.
C'est essentiel. Je peux pas faire un événement en ne faisant pas presque une étude sociologique en amont. Non, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est quelles sont les esthétiques musicales dites historiques du territoire ? Alors, du Sud-Ouest, et même en zoomant encore un peu plus de Nouvelle-Aquitaine, et même, pourquoi pas, en zoomant encore plus en Dordogne. On est plutôt sur le rock, le métal, le reggae, le dub. C'est un peu les esthétiques historiques. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on l'inscrit aussi dans un temps actuel, avec des projets récents, avec des projets nouveaux, dynamiques, tout en se disant on est à l'écoute aussi des esthétiques musicales qui marchent bien sur un territoire. On prend aussi en compte la tranche d'âge. Qu'est-ce qui parle à des personnes de 40-50 ans en artistes de reggae ou de rock aujourd'hui? Sur le festival 24 carats, qu'est-ce qui parle en rap aujourd'hui à des jeunes entre 18 et 25 ans? Et en même temps, qu'est-ce qui parle aussi aux gens de 40 ans? Parce que c'est pas du tout un événement qui a envie d'exclure des tranches d'âge. Nous, on est quand même plutôt sur le vivre ensemble avant tout et un accueil de public le plus large possible, puisqu'on est une salle de musique actuelle, qu'on est censé être, on va dire, un peu un... Enfin, on a un rôle de représentativité et puis surtout d'accueillir toutes les esthétiques musicales, toutes les tranches d'âge. On n'a pas du tout un rôle excluant, quoi. Enfin, au secours. J'espère pas.
Est-ce que vous écoutez ce que vous mettez en programmation ou pas toujours ?
Toujours, tu rigoles.
Non, pas dans ce sens-là. Est-ce que vous écoutez au quotidien ? Est-ce que c'est un truc que vous pourriez écouter ? Je vais pas dire que vous aimez parce que ça se fait pas, mais est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez ?
Alors,
ou est-ce que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec vos goûts à vous ?
Pour moi, la programmation, par définition, tu me diras ce que tu en penses, Salomé.
Oui, c'est ça, là je veux la vie des deux, bien sûr.
Ouais. La programmation, c'est pas de programmer ce qu'on aime, c'est d'être à l'écoute des publics, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi d'être dans cette attention un peu quotidienne de qu'est-ce qui s'écoute, quel est l'historique de ce qui s'est fait, alors déjà dans la région, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi qu'est-ce qui s'est fait au Roxane, tu vois, par le passé, parce qu'il y a quand même une patte, la salle elle est historiquement rock, c'est littéralement dans le nom. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage, comment on essaye de le mettre quand même à notre image? Mais le mettre à notre image, ça veut pas dire le mettre à notre goût, en tout cas pas à notre goût personnel. Pour moi, ça n'a rien à voir et ça n'a rien à faire là. Et que c'est tout le juste équilibre et le fil très mince qu'il faut réussir à trouver entre être à l'écoute de ses publics et d'une forme d'attente aussi parfois que peuvent avoir les gens par rapport à un lieu. Et par rapport à ce qu'ils ont envie de voir ou d'écouter dans une salle de spectacle et dans une salle de concert chez nous. Et en même temps, de notre côté, de faire des propositions, c'est-à-dire d'aller vers des choses un peu plus décalées par rapport à ce qui a pu se faire dans le passé, des projets un peu plus innovants, des esthétiques musicales qu'on fait moins. Par exemple, au Roxane, pour l'instant, des projets vraiment purs pop, hyper pop, on n'a pas vraiment eu. Et en même temps, du coup, c'est toute la entre guillemets mise en danger. Tout d'un coup, c'est un pari, c'est-à-dire je parie que ce projet hyper pop au Roxane, ça va être super. J'ai pas d'historique de cette esthétique là ou de cette typologie de projet Roxane, donc je ne sais pas quelle typologie de public ça pourrait potentiellement intéresser. Peut-être que ça plaît, peut-être que ça va être une cata. Donc c'est un peu un pari. Et c'est un peu l'endroit difficile pour le Roxane aujourd'hui, c'est que nous on a très peu de marge de manœuvre en proposition artistique parce qu'on est une association qui ne peut pas se permettre de se mettre en danger et qu'on doit être donc très sage et qu'on doit faire très attention aux prises de risques. Et c'est ce que je dis très souvent aux productions avec qui on discute, et c'est aussi pour ça qu'on a réussi depuis 2 ans à trouver une gymnastique aussi de soit de travailler, de collaborer avec d'autres structures, d'autres associations qui peuvent absorber le risque artistique avec nous, à deux, soit de faire des co-réalisations, des co-productions, donc un risque qui est aussi absorbé par la production elle-même. Parce qu'on a cette difficulté de prise de risque, ce qui est pourtant un des aspects aussi les plus intéressants de la programmation. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, on parlait de K-pop. Moi, j'ai dit, pour l'instant, en SMAC, ou en tout cas salle conventionnée, j'ai pas vu beaucoup de K-pop. Ce serait trop marrant de faire de la K-pop.
Il y a une école de danse à Bergerac qui fait de la K-pop. Et donc, ça, c'est un public déjà.
Tout à fait. Et je me suis dit, ça serait trop bien de faire ça. Bon, pour l'instant, on est là. Tu vois,
mais j'aime bien, dire, bien sûr, je comprends l'idée.
Allons vers une esthétique qui, pour l'instant, est assez peu représentée. Et en même temps, enfin, tu vois, le festival de rap, il y a 3 ans, c'est aujourd'hui encore une certaine prise de risque.
Oui, c'est pas le plus représenté sur le territoire, j'imagine, le rap.
Bah non, et c'est la musique la plus écoutée aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on a 3 trains de retard, ça va pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce festival et qu'on a dit, on est presque obligé de le faire. Ça paraît inconcevable de pas le faire. Mais ça reste qu'une prise de risque, ça doit s'inscrire, ça doit se faire identifier, et ça demande du temps, c'est pas magique, on peut pas du jour au lendemain faire exploser un événement, convaincre des prods de rap de venir en Dordogne et de nous faire confiance et de se dire que ça va bien se passer alors qu'ils nous connaissent pas, qu'on a jamais bossé ensemble, sud-ouest en Dordogne faire du rap, quoi, c'est nouveau, voilà. Ça demande du temps, ça demande de la confiance, ça demande de s'inscrire dans un certain rythme, et c'est pas magique, quoi, c'est du boulot, mais on a besoin d'être soutenu là-dessus. On peut pas faire ça tout seul, on a besoin de continuer à être reconnu, à être accompagné par nos partenaires qui doivent nous faire confiance quand on fait ces prises de risque là, parce que nous on y croit, parce qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Et puis surtout, je pense qu'il y a aussi un truc de le succès d'un concert, de tenter une esthétique, de faire quelque chose de nouveau, n'est pas toujours dans le remplissage du public. Combien de personnes on a fait, combien d'argent on a gagné, est-ce que ce concert est rentable? Par définition, un concert, c'est pas rentable.
Histoire de culture aussi derrière. Donc, apporter la culture.
Oui, en fait, c'est...
Qu'importe la rentabilité.
Bah, en fait, on est une asso, donc déjà, on réfléchit pas en rentabilité, ça n'existe pas chez nous. Nous, on réfléchit en impact, c'est-à-dire quel impact ça va avoir de faire ce projet, à quoi ça sert, pourquoi on le fait aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui a un vrai rôle. On en parlait il n'y a pas trop longtemps, par exemple, avec la claque, je ne sais pas si tu sais. La claque n'aura jamais l'impact de Guerre au Rock en termes de public. Jamais, la claque n'a pas vocation de devenir Guerre au Rock. Mais le rôle qu'ils ont sur le territoire, la dynamique qu'ils amènent et la manière dont ça lie les gens. Et vraiment, on est beaucoup, et moi j'en fais partie. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, la claque, les événements de la claque, le festival d'été, c'est un des premiers événements où j'ai rencontré des gens, où je suis allée faire la fête. Ça m'a permis de créer du lien avec des gens autour de musique électronique, pareil, pas hyper représentée. C'est des gens qu'on croise tout le temps, qui sont à tous les événements. C'est une population de personnes, pareil, voilà, c'est plutôt des gens de la trentaine, qui sont pas beaucoup, mais ils sont tous autour de cet événement, de près ou de loin, à fédérer autour de cet événement. C'est une force du territoire, et ça apporte tellement de dynamisme et d'humanité là-dedans. Et ça ne se mesure pas en nombre de personnes qui sont venues au festival, on s'en fiche. Et à toute autre échelle, ça paraît macro. Mais en fait, c'est hyper, hyper important. Et je pense que nous, on a des événements qui peuvent aussi résonner comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de réfléchir sur combien de personnes sont venues à ce concert, est-ce qu'il y a eu du monde ou pas. C'est pas la question, c'est de se dire, par exemple, je sais pas si c'est un projet qui était en résidence, c'est en fait, nous, on a mis à disposition un lieu, un espace, un moment pour travailler. Les artistes, ils en ont besoin. Billie Eilish, c'est pas devenu Billie Eilish du jour au lendemain. Elle a eu besoin d'espace pour travailler. Les artistes, ils ont besoin de moments pour travailler des étapes de leur projet. Ils passent d'artiste émergent à superstar, mais il y a des étapes entre les deux. Et nous, on est ces espaces-là. Ils sont essentiels sur nos territoires. Et faire des concerts devant 30 personnes, c'est pas un échec. C'est ça que je veux dire. C'est que si c'est, surtout, je sais pas si c'est aussi des esthétiques de niche, tu vois, il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques où en fait ce sera pas forcément des esthétiques qui seront des succès nationaux ou internationaux, mais c'est pas comme ça qu'on perçoit le succès d'un projet en fait. Enfin, voilà, bref.
Et Salomé, t'es d'accord avec tout ça ?
Dans l'idée, oui, complètement. Ouais. Pour revenir à ta question de base, c'est pas forcément des choses que j'écoute, plutôt que j'écoutais au passé avant, parce qu'il y a beaucoup de découvertes aussi dans notre programmation, que ce soit avec les sorties de résidence ou des esthétiques sur lesquelles je suis pas particulièrement proche de base. La semaine dernière, par exemple, on a fait une sortie de résidence d'un groupe local qui s'appelle Don Dele, et c'est à la fois un groupe que je ne connaissais pas, parce que c'est un groupe émergent, encore en création, etc., et une esthétique que j'écoute pas forcément à la base. C'était une super découverte, et ça m'a permis de découvrir un projet que je vais maintenant suivre et écouter. Ou sur le festival de rap, on en parlera après, mais il y a des artistes ou des groupes que je ne connaissais pas et que j'écoute maintenant. Donc c'est plus dans ce sens-là maintenant que j'ajoute à ma playlist ou à mon écoute quotidienne de musique, grâce à la programmation d'Emma et grâce au Roxane, mais c'est vraiment ce côté découverte aussi que j'apprécie.
Ça a permis donc de découvrir encore plus de choses.
C'est ça.
Je rallonge les playlists de Salomé.
C'est ça.
Ça, c'est une bonne amie, ça. du coup, parlons de votre actualité, c'est le moment.
Ouais.
Le mois de février est assez chargé.
Ouais.
Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme rendez-vous à ne pas manquer ?
Alors, pour démarrer, donc nous, notre programmation, elle se découpe toujours en deux, c'est-à-dire de janvier à juillet et puis de septembre à décembre. Donc là, on est trop contents de pouvoir annoncer janvier-juillet. Sur cette saison, peut-être déjà juste dire la manière dont on peut retrouver les infos.
Oui, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet roxane.fr, sur notre Instagram et Facebook roxane24 pour les deux. Dans vos commerces de proximité avec notre petit programme papier ainsi qu'au Roxane directement sur place 14 bis rue du professeur Poldi à Bergerac.
Parfait, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver de très intéressant ?
Donc on est trop contents parce que cette semaine on accueille Thioma. Thioma c'est un artiste, c'est un auteur-compositeur qui nous vient des Landes, qui est un projet pop-chanson que j'ai découvert un peu par hasard. Il y a déjà des marqueurs de confiance assez chouettes, ce qu'il a fait dans le passé. Les premières parties de Big Flo Oli, de Vianney, etc. Donc ça lui a déjà donné un gros coup de projecteur sur son projet. Et puis il va avoir pas mal d'actu, il sort son premier album le 13 février prochain qui s'appelle Thérapie. Et on est trop content de l'accueillir parce qu'on l'accueille pour un projet un peu particulier. Je laisse Salomé prendre la suite.
Oui, en fait ce sera une restitution d'action culturelle. Donc toute la semaine, Thioma va vadrouiller entre deux collèges, donc le collège Max Pramery à La Force et le collège Jacques Prévert à Bergerac. Pendant toute la semaine, il va préparer la création d'une chanson avec des élèves de 4e et 3e. Ils vont faire ça, le mettre en musique, écrire le texte toute la semaine et travailler dans les établissements et ensuite se retrouver sur la scène du Roxane vendredi 30 janvier à 20h30 pour présenter ce projet en collaboration avec les élèves mais aussi son projet personnel lors d'un concert.
Donc il y a un peu une double action, c'est-à-dire que à la fois c'est un travail musical, c'est un travail aussi pour les profs de français, d'écriture, c'est à la fois un travail pour le vendredi spécifiquement pour la restitution, aussi d'apprendre à chanter, s'exprimer en public, découvrir une salle de concert, monter sur scène, c'est toujours des moments un peu particuliers pour les élèves et nous c'est trop chouette d'année en année, même après des jeunes qui sont à la Rock School qui me disent « Ah bah oui, moi j'ai fait un projet avec le Roxane quand j'étais en 4e, quand j'étais en 5e donc il y a une multitude de missions dans un projet d'action culturelle. À la fois pour les établissements scolaires et à la fois pour le Roxane aussi, c'est important d'accueillir des jeunes et de leur faire découvrir ce que c'est une salle de concert et comment on s'exprime sur scène, comment on monte sur scène, comment on gère voilà, un public et de travailler avec un artiste professionnel avec qui on va prendre le temps de découvrir les étapes de création originale d'une chanson. Donc ça c'est trop chouette. Et je crois même que tu m'as dit qu'il allait aussi leur faire apprendre un petit peu des chansons de son répertoire. Donc ça va être très cool.
Très très sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre donc dans ce mois de février ?
Ensuite, en février, on accueille un projet qui s'appelle Talbru. Talbru, c'est un projet de musique trad féminin. Alors, c'est un musique de projet musique trad, mais aussi mélangé avec des sonorités beaucoup plus électroniques, un peu plus actuelles. C'est un projet qui est en partenariat avec Garage Résidence. On est en partenariat avec eux depuis un petit moment. C'est un collectif de soutien à la création artistique d'essence matrimoniale et patrimoniale, et qui aide aussi à la professionnalisation des acteurs. Et c'est aussi un partenariat avec le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin. Ça nous tient vraiment à cœur, parce que c'est une relation partenariale qui se passe très bien. On aime beaucoup travailler avec eux. On est très heureuse d'accueillir ce projet. Donc c'est un projet qui sera en résidence. Donc pareil, résidence toute la semaine au Roxane. Un gros travail de fin d'étape pour Talbru qui a fait déjà pas mal de résidences cette année, de création et de répétition, et qui sera présent chez nous aussi pour donc une restitution.
Donc là, on se retrouvera le vendredi 13 février, toujours à 20h30 pour le début du concert et 20h l'ouverture des portes, pour voir cette restitution de leur travail. C'est un événement qui est gratuit, encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour.
Bien de le préciser. On enchaîne.
Ensuite, fin février, on accueille un gros projet, on accueille Dub Silence. Dub Silence, c'est un groupe assez prometteur qui est en train de s'imposer sur la scène reggae. Ils vont être en résidence toute la semaine au Roxane et on a monté un projet de sortie de résidence, concert, co-plateau avec un autre projet. Je laisse Salomé dévoiler la suite.
Donc on va retrouver Dub Silence avec Broussailles. Donc Broussailles, il tourne depuis plus de 25 ans, c'est vraiment des piliers du reggae français. Ils ont sorti au total 7 albums et fait plus de 1000 concerts, donc on est vraiment content de les accueillir. Pour ce qui est du côté musical, ils puisent leur inspiration plutôt entre Bob Marley, Steel Pulse ou Alpha Blondie. Et voilà, ils sont très très engagés dans leurs paroles et dans leurs chansons, sur l'environnement, sur la planète, sur l'écologie. Donc ça va être un beau co-plateau en perspective.
Non, on est très content de faire ce co-plateau avec Broussailles et Dub Silence, parce qu'en plus ils se connaissent, ils ont déjà partagé la scène ensemble. Donc ça va être super, ça va être vraiment une grosse soirée reggae avec deux super projets donc on est très très content de les accueillir.
Ça va être un rendez-vous pour tous les amateurs de reggae.
Tout à fait.
Est-ce qu'on a fait le tour pour le mois de février?
Oui.
Je crois qu'on est bon, donc on va vous revoir pour faire le mois de mars dans quelques semaines.
Est-ce qu'on peut faire un petit teasing du mois de mars ou pas?
Ah bah avec plaisir.
Ok. Donc en mars, on accueille le festival 24 Carats sur différentes dates et différents week-ends. On va retrouver des concerts. Donc 24 Carats, c'est un festival des cultures urbaines, plus large que le rap. On a tout type de pratiques. Et on va retrouver des concerts, du breakdance, on va retrouver des open mic pour venir s'exprimer librement. Voilà, on vous en parle le mois prochain.
Bien sûr, à retrouver sur Happy Radio, évidemment. Merci beaucoup d'être venu au micro, je crois qu'on a fait un bon tour.
Mm-hmm.
C'était super clair, bah, je crois qu'on se rend compte qu'il y a quand même autre chose que juste brancher des amplis et allumer des lumières derrière une salle. Merci d'être venu l'expliquer, puis on vous retrouvera encore une fois très vite au micro, dans deux semaines peut-être. Merci d'être venu.
Merci.
Et je rappelle que cette rubrique est à écouter et réécouter sur happyradio.fr. Merci à vous.
Éco 24, la rubrique économique locale. Happy Radio.